Bonjour à tous. Christophe Gomard, bonjour. Merci déjà d'être avec nous aujourd'hui pour un beau voyage dans la décision. Force spéciale et fonction publique territoriale. Pas forcément évident les liens, mais on en a déjà trouvé un en préparant. C'est que dans la fonction publique territoriale, on choisit son employeur et l'employeur nous choisit. Et c'est un peu pareil dans les forces spéciales, vous nous raconterez ça. Mais en tout cas, on ne n'est pas opérateur des forces spéciales, on le devient et on est choisi par un long processus de sélection. Vous-même, vous êtes Saint-Cyrien, vous avez commandé le 13e régiment de dragons parachutistes. Si mes lectures de Gérard de Villiers, SAS, sont toujours d'actualité, le 13e régiment de dragons parachutistes, c'était les commandos qui étaient envoyés en URSS, s'enterrer pendant des jours et des jours à essayer de prendre des photos des forces russes. Et la mission a été réussie puisque les Russes ne sont pas encore arrivés à Paris. Vous avez ensuite pris de la hauteur.
Et ils n'arriveront pas.
Vous avez ensuite pris de la hauteur en contribuant à façonner la décision politique et stratégique aux plus hautes fonctions de l'État, puisque vous avez été à la coordination nationale du renseignement. Vous avez commandé les opérations spéciales et vous nous direz peut-être qu'est-ce qu'elles ont de spécial. Et puis vous avez également commandé en tant que directeur du renseignement militaire, qui est, de ce que je comprends, le pendant militaire de la DGSE que nous connaissons tous par le Bureau des légendes. Mais vous nous direz peut-être que le renseignement militaire est beaucoup plus efficace que ce qu'on a pu voir sur Canal+. Mais sans plus attendre, plongeons ensemble au cœur de la décision et un peu en mode grand oral. Beaucoup d'entre nous ont connu des grands oraux assez malheureux et plus heureux puisque nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que vous auriez deux ou trois grandes décisions un peu emblématiques de votre carrière qui nous permettraient ensemble de comprendre comment se façonne justement la décision au sein des opérations militaires et peut-être au sein des opérations militaires spéciales?
Bien, merci pour la question. Bonjour à tous. La décision, pour moi, la décision, c'est qu'on dit que décider, c'est égal à un choix, choix égale chef, ou chef égale choix. Alors, ça paraît évident dans le monde militaire qu'il faille décider. Alors, j'ai bien un exemple. Nous sommes en janvier 2013. Des colonnes djihadistes descendent vers la ville de Bamako. Et c'était une question d'heure. Il devait y avoir un conseil restreint à l'Élysée dans lequel le président François Hollande devait prendre la décision d'envoyer les forces armées au Mali ou pas. Le chef d'état-major des armées y était. Moi, je n'y étais pas. J'étais commandant des opérations spéciales et j'avais déjà pas mal de forces spéciales sur le terrain en Afrique, en tous les cas. Nous n'en avions pas au Mali puisque les Maliens, quelques mois auparavant, m'avaient fait comprendre qu'ils avaient besoin de récupérer la base sur laquelle nous étions pour pouvoir s'entraîner eux-mêmes et pouvoir, j'allais dire, positionner leurs forces. Leur force était bien réduite, soit les soldats maliens avaient été tués, soit ils avaient disparu dans la nature. Et la décision, c'était, si on les laisse descendre trop au sud, en fait, on va avoir du mal, nous, à s'implanter. Il nous fallait un aéroport, il nous fallait une piste pour pouvoir poser nos avions et pouvoir amener des troupes rapidement. Sachant qu'en fait, il n'y avait pas d'autres soldats français que les forces spéciales. Et nous n'étions pas très nombreux, puisque nous étions environ maximum 200 à ce moment-là. Et nous sommes le 9 janvier 2013. Et avec l'état-major des opérations spéciales, c'est que avant de prendre une décision, on étudie des modes d'action amis, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos propres moyens, de quoi je dispose. Je disposais de 2 avions de transport, je disposais de quelques hélicoptères et je disposais de véhicules à roues. Et donc on essaie de travailler des modes d'action amis. Mais ces modes d'action amis, ils sont toujours confrontés à un ennemi, à un adversaire. Et ça, c'est valable quelle que soit la décision finalement. C'est-à-dire que là, dans ce cas présent, on avait un adversaire qui était ces djihadistes qui descendaient en colonne de pick-up vers le sud et dont l'objectif était Bamako, par 2 axes. Et un des axes passait par la zone de Mopti Sévaré. Mopti Sévaré m'intéressait parce qu'il y avait une piste en dur sur laquelle je pouvais poser des avions et donc amener des troupes et du matériel. Et donc, plus la décision tardait à être prise à Paris, plus le risque de voir ces djihadistes arriver sur Mopti Sévaré était forte. Et avec mon état-major, nous avons bien réfléchi, on s'est dit que si jamais la décision n'était pas prise, il fallait quand même être présent sur cet aéroport, en tous les cas pour freiner et empêcher les djihadistes de le prendre. Alors évidemment, on n'avait pas de décision politique, puisque, comme je vous l'ai dit, nous étions le 9, puis le 10, et je savais que le conseil restreint avait lieu le 11, et que normalement la décision serait prise d'engager les forces armées françaises, alors que le président Hollande avait dit « pas un soldat français n'est sur le sol malien ». Et la décision du chef que j'étais a été de dire « on va aller poser des gens dans la nuit ». Et on va prendre l'aéroport, et comme ça, au petit matin, on sera présent et on sera en mesure d'arrêter les djihadistes si jamais ils descendent avant même que la décision soit prise. Donc c'était une prise de risque évidente. L'opération elle-même s'est bien passée puisqu'ils n'étaient pas encore présents. En arrivant sur place, c'était un capitaine qui me dit, j'ai rencontré le chef malien qui me dit qu'ils sont un bataillon environ, en langage militaire, c'est environ entre 500 à 600 hommes. En fait, s'il y en avait 30, c'était beaucoup. les autres allaient disparaître dans la nature. Donc effectivement, nous avons pris position, nous avons mis en place des défenses, et le lendemain, à midi, lorsque la décision a été prise au niveau de l'Elysée, j'étais déjà en place, empêchant effectivement, avec cet aéroport qui était pris par les Français, les forces spéciales en particulier, pour empêcher les djihadistes de descendre plus au sud. Et ils ne descendront pas plus au sud, puisque des combats auront lieu 10 km au nord de cet aéroport, dans lesquels on en a détruit pas mal, et ensuite ils ont commencé à refluer vers le nord. Mais c'est pour vous dire que la décision aura été, j'ai pris un risque, évidemment, parce qu'il n'y a pas de décision sans prise de risque. Or, nous vivons dans une société où je trouve qu'en fait, la prise de risque, aujourd'hui, est réduite très forte, et je veux dire, la prise de risque en elle-même, on n'ose pas la prendre. C'est, on parle de guerre zéro mort, je ne connais pas de guerre sans mort, malheureusement. La guerre est quelque chose d'atroce, et on le voit bien aujourd'hui en Ukraine, mais il y a toujours cette prise de risque, et il n'y a pas d'avancée humaine sans une prise de risque initiale. Et quel que soit le job, quel que soit qu'on soit administrateur, mais à un moment donné, on a une responsabilité, et selon moi, il y a un moment donné, il faut prendre un risque. Alors là, je vous raconte un risque important, puisque finalement, j'engageais la France sur mes petites épaules d'officier général, certes, même si l'analyse que j'en ai faite, c'est que ça se passerait bien, et ça s'est bien passé. Et que les MA étaient plus en ma faveur que les modes d'action ennemis, les ME. Donc, la décision a été prise. J'ai une autre décision comme ça, mais là, ça s'est fait. Alors, la décision, elle se prend. Il y a un chef qui décide à la fin. Il est là pour ça, d'ailleurs. C'est quoi le rôle d'un chef? C'est de décider. Mais il décide avec un état-major, avec des collaborateurs, j'allais dire, dans le milieu civil, ou avec des subordonnés dans le milieu militaire, dont l'avis est absolument indispensable. Même si, parfois, il faut aller contre leur avis. C'est ce que j'ai fait une fois, toujours au Mali, quelques mois après ou quelques semaines après. En fait, on avait pris les villes de Gao, le pont de Gao, l'aéroport de Gao. Et à ce moment-là, le colonel qui commandait les forces spéciales, le groupement de forces spéciales qui était lui installé à Ouagadougou, au Burkina Faso, me dit « Bon, mon général, il faut faire reposer les hommes, on est fatigué. » De fait, il n'avait pas arrêté depuis 3 semaines. De 200, on était passé à 300, donc c'était un peu mieux. Mais il n'y avait toujours pas de force française qui était positionnée ailleurs en Afrique. Et le temps qu'elle rejoigne, on était un peu seul. Il me dit, il faut prendre le temps de repos. J'ai dit, non, on va aller tout de suite à Kidal, donc plus au nord, pour s'assurer qu'en fait, les djihadistes soient repoussés plus au nord. Et surtout, on avait en tête à l'époque, il y avait 4 otages français qui avaient été pris à Arlit. Et l'idée, c'était également de les retrouver, ces pauvres gens qui étaient aux mains de ces djihadistes. Et ce colonel, alors qu'il m'a donné tous ses arguments pour dire, il faut faire reposer les hommes et les machines. Et moi, mon rôle a été de lui dire, non, on va continuer plus au nord et vite, de façon à bousculer l'adversaire. Et à s'assurer du gain de temps. Parce qu'en fait, après, c'était une lutte contre le temps. Donc, j'ai pris la décision contre son avis, en réalité. Ça s'est bien passé, et nous, on a eu beaucoup de chance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une décision... Vous savez, on dit toujours que le chef est seul. Oui, le chef est seul à prendre sa décision. Mais évidemment que ça s'appuie sur les autres. Évidemment que ça s'appuie sur l'élaboration d'une intention qui est le fait d'une réflexion avec tout le monde. Quand j'étais jeune officier, on avait un processus qui s'appelait le PMG. Ça voulait dire processus des missions globales. Et dans notre langage, en fait, c'était le processus de la main dans la gueule. Tout simplement, en fait, il fallait associer, c'était au moment de la conscription, que les plus jeunes n'ont pas connu du tout, et il fallait associer nos soldats appelés au combat qu'ils allaient mener. C'est-à-dire faire comprendre pourquoi ils allaient prendre un pont, réduire une résistance, et comment ça se passait. C'est-à-dire associer tout le monde à l'action qui allait être menée. Je crois que si on comprend ce qu'on fait, eh ben on le fait de manière beaucoup plus intelligente et voir l'intelligence de chacun participe à l'élaboration de la solution choisie et décidée par le chef à la fin. Et donc, quelqu'un qui est un tireur d'élite, eh ben il va expliquer, moi je peux faire ça et je serais plus efficace si j'étais à tel endroit. Quelqu'un qui est un tireur lance-roquettes, par exemple, dire, ben moi je suis plus efficace à tel endroit. Et moi avec mon fusil mitrailleur, je serais plus efficace si j'étais mieux positionné là et si je pouvais m'infiltrer par ici. Donc vous voyez qu'en associant tout le monde... Et ce processus des missions globales, en fait, permettait à chacun d'être associé, finalement, à la prise de décision. Et dans le milieu des forces spéciales, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire, ce sont des petites équipes, des petits groupes, dans lesquels, j'allais dire, l'avis de chacun est absolument indispensable. Certes, à la fin, il y a un chef qui est là pour décider. L'idée, c'est de réduire le risque au maximum, sachant que le risque continuera d'exister. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty, c'est le film qui raconte la neutralisation de Ben Laden. Ça se passe au Pakistan. Le film est très bien fait parce qu'il raconte bien, ça c'est l'ancien directeur du renseignement militaire qui parle, la longueur, le temps qu'il faut pour recueillir du renseignement, l'action soudaine des forces spéciales américaines. Eh bien, ces forces spéciales américaines qui agissent, et on voit très bien ça dans le film, en fait, perdent un hélicoptère au moment du poser. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un assaut héliporté. et il y a visiblement un hélicoptère dont le rotor arrière touche un mur. Bref, en fait, ça change radicalement la donne. C'est-à-dire que d'un seul coup, le chef de mission se dit « Waouh, comment je fais pour ramener tout le monde ?» Parce qu'il y a un hélicoptère en moins. Donc en fait, ça a été prévu avant. C'est-à-dire que dans l'analyse de la mission, on va étudier ce que j'appelle les cas non conformes. Que se passe-t-il si je perds un hélicoptère? Est-ce que je peux rentrer le personnel d'un hélicoptère dans les deux autres ou les trois autres? Oui, non. Si c'est non, je rajoute un hélicoptère supplémentaire à ma mission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crois énormément à l'analyse préalable, quel que soit le métier que l'on fait. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise privée, c'est valable pour tout. Où je suis directeur des risques, les risques qui sont identifiés, on les analyse et on voit quelles sont les mesures de réduction de ces risques. Mais à la fin, il y a un chef d'entreprise qui est là et qui décide. Et c'est ce que demain vous serez amené à faire, c'est prendre le risque de décider. Et en même temps, c'est ce qui fait la grandeur du chef, du décideur, c'est cette prise de risque. Avec un corollaire, c'est d'accepter l'échec. C'est-à-dire que bien souvent, on dit, bon, en fait, c'était pas moi. Chef, c'était pas moi, c'était... Non. Non, le chef qui décide, il prend en même temps le risque pour lui. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui est responsable. Et à ce titre-là, c'est lui qui assume la prise de décision et les risques qui ont été pris par sa décision.
On voulait peut-être vous interroger sur la chaîne de commandement qui, d'un point de vue des collectivités territoriales, nous paraît au sein des forces spéciales, en fait, finalement très courte. Vous devez décider dans un environnement très hostile. Est-ce que c'est une réalité, sachant qu'en territorial, on est souvent dans le consensus avec un mode partenarial et différents décideurs? Quel est votre point de vue sur ces différences de fonctionnement?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence de fonctionnement. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, enfin, qui a un peu à voir avec les forces spéciales. C'est l'arrestation d'un criminel présumé de guerre en Bosnie-Herzégovine qui s'appelait Momcilo Krajisnik. Momcilo Krajisnik, c'était le numéro 3 de la Republika Srpska et il était... On appelle ça PIFWIC pour Personal Indicted for War Crimes. Et donc, la haie l'attendait. Et donc, on avait repéré la maison de cet homme dans une petite ville qui est assez proche de Sarajevo, qui s'appelle Palais. Et à Palais, en fait, il apparaissait jamais, évidemment. Il avait disparu dans la nature, sauf qu'un jour, on avait une équipe qui était enterrée à proximité, à quelques centaines de mètres, et qui avait repéré à travers la fenêtre d'une salle de bain, une fenêtre dépolie, un visage qui ne lui était pas inconnu, en tous les cas un profil qui ne lui était pas inconnu. Et le chef d'équipe envoie une photo en nous disant « C'est sûr, c'est Momcilo Krajisnik ». Donc là, branle-bas combat dans l'état-major parisien, en tous les cas au commandement des opérations spéciales et à la direction du renseignement militaire à laquelle j'appartenais à l'époque. Et on se dit « Il faut aller l'arrêter ». Mais avant de mener une opération comme ça, il nous fallait le feu vert politique. Et le feu vert politique, il faut l'obtenir. Donc, en fait, il faut aller conseiller à un décideur politique l'autorisation de mener cette action, avec les risques, évidemment, induits, puisque ça implique la France directement. Alors, c'est peut-être pas au niveau territorial, mais c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il a fallu aller convaincre le ministre. En l'occurrence, c'était M. Alain Richard. Et Alain Richard, ce jour-là, vient d'inaugurer le mur de la paix qui était sur le champ de Mars. Là. C'était un matin d'hiver. Et on se retrouve chez le chef d'état-major des armées, à l'école militaire. Et là, il faut lui exposer. Voilà, monsieur le ministre, nous savons où est Momcilo Krajisnik, qui est une personne recherchée pour crime de guerre. Très bien. Donc moi, je lui expose la partie renseignement, ce qu'on savait sur lui. Et il me dit, mais vous êtes sûr de votre bonhomme qui a pris la photo à quelques centaines de mètres? Est-ce que je vais prendre le risque? Et donc, moi, je tente de le convaincre. L'officier chargé des opérations spéciales lui explique la façon dont ça pourrait se passer. Et lui, il nous dit, oui, mais moi, j'ai déjà eu avec vous l'affaire Gagovic. Gagovic était un autre criminel de guerre dont la tentative d'arrestation s'était terminée par sa mort. Donc évidemment, ça se passait du côté de Foča. Foča, c'est une autre ville en Bosnie-Herzégovine. Et donc, pour le ministre, évidemment, il dit « J'ai toujours le dossier sur mon bureau de ce dit Gagovic ». Donc il hésite à prendre la décision, forcément. Et c'est le rôle des conseillers que j'étais, parce que finalement, le conseiller n'est jamais le payeur. Et celui qui prenait le risque, c'était pas moi, c'était les gens qui allaient sur le terrain, bien sûr. Mais le risque politique était pris par Alain Richard, ministre de la Défense à l'époque. Et c'est tout la question. Et par la suite, puisque j'étais adjoint du coordonnateur national du renseignement, j'avais un rôle de conseiller, finalement. C'est-à-dire avoir tous les arguments, en tous les cas, tous les éléments qui permettent de rassurer le chef qui va prendre la décision. Et en tous les cas, de lui avoir prévu tout, et à ses arguments, avoir le contre-argument qui est prêt. Et ça, c'est dans l'élaboration, j'allais dire, de l'action, évidemment. Ça demande un travail préalable et un pouvoir de conviction certain. Mais croyez-moi, un ministre de la Défense, il ne prend pas une décision comme ça lorsqu'on lui dit, ben voilà, on va aller arrêter un mec qui est chez lui, avec les risques induits, risques politiques évidemment, risques j'allais dire géopolitiques, même si tout le monde était d'accord pour l'arrêter, puisque c'est le tribunal de La Haye qui le recherchait. Mais donc ça s'est bien passé, et il a fini en effet à La Haye, et ça s'est fait même sans coup faire rire, même si l'okrajistnik a été arrêté la nuit. Il a sorti un pistolet, mais les gens qui l'ont arrêté ont réagi plus vite que lui. Donc il a fini dans un hélicoptère en direction de La Haye, où il a été jugé.
Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup ri, nous, entre élèves, parce qu'il y avait un article dans Le Monde qui parlait des écoles de commerce qui développaient les mad skills. Et un des directeurs de la formation de l'INET avait mis un petit émoticône interrogatif, se posant la question de qu'est-ce que c'est que ces mad skills. En vous écoutant, on a l'impression que tout est planifié, les canons conformes, que tout est finalement tracé, et que quand l'intervention arrive, tout est prévu. Est-ce que c'est réellement le cas? Parce que la vision qu'on avait plus tôt, nous, c'était justement de libérer les chiens fous, les chiens de guerre, avec une capacité d'adaptation folle. À vous entendre, on a l'impression que tout est déjà écrit, ou en tout cas, tout est déjà prévu. Quelles sont les qualités que vous essayez de développer chez vos opérateurs et quelles sont les qualités que vous nous encouragez à développer nous-mêmes?
On essaie de tout prévoir, mais rien n'arrive jamais comme on l'a prévu. Ça s'appelle la LEM, la loi de l'emmerdement maximum, ou la loi de la tartine beurrée, ou comme disait un de nos présidents de la République, Jacques Chirac, les emmerdements, ça vole en escadrille. Et c'est vrai. Quand quelque chose commence mal, malheureusement, ça peut se terminer très très mal. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement des arrêtoires, en tous les cas, de savoir s'arrêter à temps. Quand on voit que quelque chose fargue mal, de savoir s'arrêter à temps. Parfois, ça se passe mal. En Afghanistan, je commandais un groupement de forces spéciales. Nous sommes en 2006. Et puis, d'une patrouille, on était chargé d'arrêter de monter les embuscades pour empêcher les talibans en fait, d'aller se ravitailler au Pakistan et d'aller ensuite dans leur cœur. Et moi, j'étais positionné du côté de Kandahar, en fait, dans une petite ville qui s'appelle Spinboldak. Et on avait toute une zone d'action dans laquelle on travaillait, façon de parler, enfin dans laquelle on était. Et un jour, je reçois un appel effectivement en radio disant qu'on avait des gens accrochés. Ça veut dire qu'on appelait ça TIC, pour Troop in Contact. Et là, vous entendez à la radio, tic, 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 ok, vous savez que ça... Donc là, silence est fait, on est concentré sur l'action en cours. De cette action dont je parle, on aura un officier marinier tué. Et donc, c'est la capacité à réagir face à une merde, face à un événement grave. Et c'est là où on compte sur les capacités de réaction et sur la formation initiale de nos opérateurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont réagir. Bien sûr, il y a les deux qui étaient à côté de cet officier marinier blessé. Mais donc, eux, ils cherchaient à le stabiliser. L'infirmier qui était avec eux était à côté et les autres continuent à se battre. Donc, dans les qualités, je crois, il y a arriver à prendre une décision alors qu'on est en état de stress fort dans lequel on est sous pression. Et la pression, on l'a tous. Alors là, je vous parle d'un cas extrême, mais la pression, on l'a tous dans tout notre job. Parce qu'on a un chef qui est plus chiant que les autres, parce que lui-même a un chef au-dessus qui lui met la pression. Donc comment est-ce qu'il faut arriver à prendre de recul? C'est-à-dire, on parle d'hélicoptère view, c'est-à-dire une prise de recul, non pas une prise de recul en se détachant, mais une prise de recul pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Et je crois que l'idée, c'est de collecter face à l'incertitude, c'est d'arriver à avoir le maximum d'informations qui permettent de décider le mieux possible. Il n'y a jamais de décision globale, même si tout à l'heure je parlais de mode d'action, de canon conforme. Évidemment qu'on essaie de prévoir le pire, et c'est le rôle du chef, du décideur. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Et c'est vrai que ça compte, en tous les cas dans les forces spéciales, on compte beaucoup sur la confiance les uns dans les autres. Et cette confiance, on l'acquiert par les formations qui sont longues, rigoureuses, difficiles, stressantes. Et le résultat est que dans l'opérateur des forces spéciales qui est là, on a toute confiance en lui. Et quand il nous dit quelque chose, on sait que c'est vrai, c'est du A1 en langage renseignement. C'est-à-dire qu'on est sûr de la source et on est sûr de l'information qu'il va nous donner. Et je crois que cette confiance, c'est valable partout dans toutes les équipes. Elle est absolument indispensable. Alors, elle s'établit de différentes manières. Il y a les séminaires dans lesquels on voit les gens différemment, avec différents tests amusants ou moins. Mais en tous les cas, je crois que c'est ça, c'est établir une relation de confiance dans une équipe. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance, dans les armées, il y a souvent des pots. Alors, on dit que les militaires sont alcooliques, je peux dire que ce n'est pas vrai, vu la quantité de sport que j'ai pu faire. Mais ces pots, en fait, sont un moment pour casser la glace et que le plus jeune ou le moins gradé puisse venir voir son chef directement sans les échelons intermédiaires, sans les strates intermédiaires, et puisse lui parler directement par le simple fait de partager une bière. C'est idiot de boire une bière ensemble. ou autre chose. Mais en tous les cas, il y a ce moment de convivialité qui est absolument indispensable parce que demain, on va aller peut-être à la guerre ensemble. Et la guerre, je vous parle de la guerre physique que j'ai connue, mais je vous parle également de la guerre parce qu'il faut obtenir une décision, parce qu'il y a une action à mener, parce qu'il y a une grande réalisation, un grand événement qui arrive, ou que sais-je. Et ça, s'il n'y a pas cette convivialité initiale, s'il n'y a pas la connaissance des collaborateurs, ce qui m'a un peu surpris, je vous raconte ça en arrivant dans le privé, je devais recruter quelqu'un dans mon équipe. Et moi, naturellement, donc j'ai reçu des gens et je posais la question, vous avez des enfants, vous habitez où ? Et là, la RH m'a dit, jamais on fait ça. Parce que sinon, à vous dire, attention, vous ne la prenez pas ou vous ne prenez pas cette personne parce qu'elle a des enfants et vous avez peur que là, ou elle habite trop loin, vous pensez qu'elle ne va pas arriver à l'heure, etc. Pas du tout, en fait. Moi, ma vision, c'était de faire connaissance avec la personne avec laquelle j'allais peut-être travailler. C'était un ensemble de choses. Donc, j'essayais de voir la personnalité de la personne que j'avais en face de moi dans son ensemble. Et cet ensemble, effectivement, comprend également la vie familiale. Et c'est ce que j'ai trouvé plus compliqué, finalement, d'arriver dans le privé. C'est qu'en fait, il y a une espèce de distanciation avec vie privée, vie professionnelle. Or, dans le milieu militaire, qui était le mien précédemment, je crois que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire qu'un soldat, que ce soit un homme ou une femme, est intimement lié à sa famille et sans laquelle, d'ailleurs, il ne serait pas ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai qu'on organise souvent des repas ou je ne sais pas quoi avant de partir en mission parce qu'on veut être sûr de connaître et rien de tel que de mieux connaître la femme, les enfants, le conjoint, des personnes avec lesquelles on part en mission. Et je crois que cette connaissance mutuelle débouche sur une confiance mutuelle et que cette confiance mutuelle est absolument indispensable pour mener n'importe quelle ou pour prendre une décision parce qu'on peut s'appuyer sur la vie, sur les réflexions, parce qu'il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Et bien souvent, la décision sera d'autant mieux prise, non pas qu'elle ait un consensus, mais en tous les cas, chacun a pu prendre en compte les avis qui peuvent être divergents. Mais à la fin, il reste un chef qui est celui qui choisit et celui qui décide.
Merci beaucoup. Alors, on va vous proposer de poser des questions dans le public. Et avant ça, moi, déjà, je retiens un premier point, c'est qu'on peut boire beaucoup tant qu'on fait beaucoup de sport. Et ensuite, alors vous avez face à vous beaucoup d'élèves. Nous, les noms de promotion, c'est Brassens, Yourcenar, Syntex. Ce qui serait intéressant, c'est que vous avez une expérience de travail un peu interministérielle, ou en tout cas, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de décision entre organismes différents, les douanes, les services, etc. Comment on fait travailler, j'ai envie de dire, Georges Brassens et le général Bijard ?
C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. En fait, ça paraît pas simple au départ, mais je pense que ce soit une promotion Brassens ou une promotion Général Bijard, dans les deux, il y a des gens qui ont envie de bien faire. Et que ces gens qui ont envie de bien faire, il faut découvrir les énergies positives, celles qui ont envie d'aller de faire bouger la machine par rapport à celles qui n'ont pas du tout envie de faire bouger la machine. Mais j'allais dire, Georges Brassens avait des vraies qualités innovantes en matière de chant, de chanson. Bijard était un homme de terrain qui, d'ailleurs, était assez proche de ces hommes dont il était issu. Puisque c'est un des généraux français qui avait été d'abord militaire du rang ou soldat, qui n'a pas fait tout de suite une école pour devenir officier ou une école pour devenir administrateur territorial. Il avait d'abord connu le terrain. Et je crois que l'alliance des deux est absolument indispensable et c'est ce qui fait la force en réalité pour avoir fait travailler à la fois des policiers, des douaniers, des militaires ou des administrateurs civils d'ailleurs. Je crois que lorsqu'il y a un but commun, lorsqu'il y a un objectif commun, lorsqu'il y a une stratégie commune, et pour moi je pense... Ce terme stratégie est absolument indispensable, c'est-à-dire avoir une vision commune, un objectif commun. Et face à un objectif commun, on rameute tout le monde en réalité, parce que tout le monde a envie d'atteindre cet objectif. Alors certains passeraient par la droite, d'autres par la gauche, d'autres iraient tout droit. L'idée, c'est d'atteindre l'objectif. Et à la fin des fins, le fait de passer par la droite, il y arrivera peut-être, celui de passer par la gauche, il y arrivera aussi, et celui de passer tout droit, sans doute aussi. Donc je crois qu'après, c'est la volonté de chacun, de l'équipe, de vouloir y arriver, d'atteindre l'objectif. On a un vrai sujet, je trouve, en France, souvent, c'est que parfois, on manque de stratégie, l'objectif est mal défini, et si l'objectif est mal défini, on n'atteint pas l'objectif. Ça, vous pouvez être sûr. À tout objectif flou, la connerie est acquise. Hein. Non, mais pardon de ce mot trivial, mais c'est certain. C'est-à-dire que soit l'objectif, il est bien concret, réel, défini, si c'est un objectif flou, vous êtes sûr que ça ne va pas marcher. Et je crois que c'est là-dessus qu'on réunit les énergies et j'allais dire l'activité, les actions des gens.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Bonjour, première question. Est-ce que pour décider dans l'urgence, finalement, il ne faut pas que chacun sache jusqu'à quel point il ou elle peut décider et à quel point est-ce qu'il faut passer la demande de décision au niveau supérieur ? Donc il faut vraiment enfin, la clarté sur le champ de délégation, chacun connaît son rôle et chacun sait à quel point il est en mesure de faire une erreur. Si jamais il a dû décider dans l'urgence, parce que c'était plus important de prendre une décision tout de suite, que de prendre la bonne décision tout de suite où effectivement l'urgence était dépassée. Donc la clarté dans effectivement la répartition des délégations et justement la pratiquer pour que quand on est vraiment en urgence, ben, on a fait les erreurs, c'est l'apprentissage.
Alors, il y a un principe que j'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait chacun est responsable à son niveau. Et ce n'est pas le fait de trouver quelqu'un qui est responsable à votre place. C'est-à-dire que chacun doit assumer à son niveau sa part de responsabilité. Et ça, c'est absolument indispensable. Et le chef doit savoir déléguer. S'il ne sait pas déléguer, il prend toutes les responsabilités sur son dos. En général, il va faire des mécontents d'ailleurs. Vous savez, il y a des chefs comme ça, hein, qui n'arrivent pas à déléguer, qui veulent tout. Actuellement, je suis en train de manager un jeune talent de la boîte dans laquelle je suis. Et de fait, je me rends compte, elle me dit, elle, cette jeune femme, en fait, j'ai du mal à déléguer parce que je veux aller tout contrôler. Il n'y a rien de pire, en fait. Évidemment, la confiance dont je parlais tout à l'heure n'exclut pas le contrôle. Mais ce n'est pas du contrôle, j'allais dire, policier, au sens du terme, où on va aller rechercher la petite bête. C'est un contrôle, j'allais dire, bienveillant. Et quand ça a été mal fait, conseiller avec bienveillance la façon dont il aurait fallu le faire, ou ça aurait été mieux de le faire. Et je crois que ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chacun est responsable à son niveau, mais c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que le chef doit laisser la délégation qu'il a donnée agir, et si jamais ça ne marche pas, faire un retour d'expérience et dire ben voilà ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Oui, et c'est construire. C'est-à-dire que tout de suite sabrer quelqu'un qui n'a pas marché parce qu'il est jeune ou parce qu'il a manqué d'expérience, à mon avis, c'est une vraie erreur. D'où c'est vrai, dans les armées, on fait beaucoup d'exercices préalables pour voir comment leurs gens réagissent, mais surtout pour apprendre des gens, pour que les gens apprennent de leurs erreurs. Parce que l'erreur est humaine et que tout le monde a fait des erreurs. Mais donc, décider dans l'urgence, quand vous avez confiance dans votre équipe, quand vous savez que vos subordonnés, vos collaborateurs vont décider juste à leur niveau parce que vous les connaissez et quand même vous ne le connaissez pas, s'il a été mis là, ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé là par hasard non plus. Il a été formé et il est prévu pour ça. Un petit conseil supplémentaire n'est jamais néfaste, mais il n'y a rien de pire finalement, je trouve, que le petit chef, il va empêcher les jeunes de pouvoir monter et grandir lui-même, peut-être le dépasser. Mais finalement, quand l'élève dépasse le maître, gloire au maître.
Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Tout à l'heure, vous avez parlé de la difficulté de prendre de la décision quand il y a du risque. Est-ce que vous avez à prendre des décisions qui ont heurté vos valeurs personnelles ? Et le cas échéant, comment on gère une décision qui va à l'encontre de nos valeurs ?
Le gros avantage des armées françaises, c'est qu'on ne va pas à l'encontre de nos valeurs. Et que la notion d'éthique est très très présente dans la formation. C'est pour ça que quand on parle de crimes de guerre, tel qu'on peut le voir, de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ça n'arrive pas. Enfin, c'est-à-dire, en tous les cas, je ne l'ai jamais vu. J'étais au Rwanda en 1994, au moment du génocide rwandais. J'ai jamais vu autant de morts de ma vie, d'ailleurs. Mais est-ce que ça allait, ce que j'ai fait là-bas, bon, en fait, à ce moment-là, je vais vous dire ma mission, j'étais officier de communication, donc en fait, j'accompagnais les journalistes sur le terrain pour qu'ils rencontrent eux-mêmes des soldats et que... ils puissent dire ce qui se faisait. On n'a jamais eu autant de journalistes sur le terrain, et pourtant l'armée française n'a jamais été autant critiquée. Donc, allez, oui. Or, ce qu'on a fait a été de protéger des populations. Et les seules fois où on a tiré, c'est contre des gens qui nous tiraient dessus. Et on n'a jamais aidé les génocidaires, quand bien même certains journalistes le disent. Mais ces journalistes qui le disent, je les ai accompagnés, donc je sais ce qu'ils ont vu ou pas vu. Donc après, certains ont intérêt à tirer la couverture à eux et à raconter des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais voilà. Donc, non, l'armée française, fort heureusement, je n'ai jamais eu à prendre de décision contre les valeurs qui font ce qu'est notre République, qui font ce qu'est notre pays, finalement. Et ça, c'est une chance. Parce qu'on a la chance, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre « Soldats de l'ombre », on a la chance de vivre dans une vraie démocratie. Alors, je ne dis pas qu'elle n'a pas des défauts. Hein. Je ne dis pas qu'on est content de toutes les décisions qui sont prises. Mais en tous les cas, on a la chance de vivre, et l'armée française en est issue, parce que l'armée française est issue de la population française. Donc elle partage ses valeurs. Les hommes et les femmes qui la constituent sont des Français qui partagent ces valeurs. Et celui qui ne respecterait pas ces valeurs, en général, il est rapidement mis dehors. Et c'est d'autant plus vrai dans le milieu des forces spéciales, où, j'allais dire, on perçoit très rapidement quelle est la personnalité en face de soi. Les mythos, les extrémistes n'existent pas. D'abord, quand on a été sur des théâtres d'opération, qu'on a vu ce qu'était la guerre, rapidement, on n'aime pas la guerre. Pour ceux qui étaient un peu mythos et qui s'est dit, ben voilà, j'aime bien aller tirer. Non, personne n'aime aller tuer des gens. Ça, je peux vous le confirmer. Voilà.
J'ai une petite question. Nous avons un point commun, c'est le territoire. Bien sûr, avec un angle de traitement complètement différent. Et pour vous le prouver,
Je suis issu d'une promotion d'administrateur qui a eu l'épreuve de culture générale. Les nations ont-elles encore besoin d'une armée dans le monde moderne? Donc, j'aime autant vous dire que la moitié de la salle était un peu surprise du sujet. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez dire si avant qu'il ne soit tué, Ben Laden a été dans le viseur de soldats français et que l'ordre n'est pas venu?
Alors, je peux tout de suite vous répondre non. Ça, c'est une légende urbaine. Oui, véridique, c'est une légende urbaine. Puisque certains ont raconté des choses à les journalistes, c'était entièrement faux. Non, jamais, jamais. Ben Laden était déjà réfugié au Pakistan, donc on ne l'a jamais eu en ligne de mire. Et il était dans sa ville d'Abbottabad, dans laquelle, en fait, vous savez comment les Américains l'ont trouvé, ils ont mis du temps. Mais ensuite, comment ils savaient où était la maison? Très bien, au Pakistan. Pardon? Non, pas du tout. Il y a toujours des gens qui parlent, malgré eux, parfois. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas livrer une information, mais qui misent avec d'autres informations. Mais surtout, les Américains avaient des images satellites de cette maison qu'ils ont vue en construction, avec différentes images satellites, puisque les satellites, vous savez, tournent autour de la Terre. Et ils avaient donc cette ville d'Abbottabad. Pourquoi ils surveillaient cette ville d'Abbottabad? Parce qu'il y a une base militaire pakistanaise à Abbottabad. Donc ils devaient regarder ça. Et donc ils ont pu reconstruire la maison grâce aux images satellites qu'ils ont superposées. Et ils ont refait une maquette en taille, en modèle, non pas réduit, mais en modèle 1, et dans laquelle les forces spéciales américaines se sont entraînées. Donc ils savaient où étaient les escaliers, où étaient les portes, etc. Donc c'est comme ça qu'en fait, Ben Laden était bien au Pakistan, et les soldats français ne l'ont jamais dans le viseur. Mais vous avez raison, on parlait des territoires. Je crois que les soldats français adorent leur territoire. Pour avoir été à Dieuze, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Dieuze, c'est une ville qui se situe entre Metz au nord, Nancy au sud et Strasbourg à l'est, ville de Lorraine, 5000 habitants. Et ça a été terrible quand le régiment a déménagé à côté de Bordeaux, pour la population bien sûr, pour ces militaires dont beaucoup avaient épousé des gens du Cru, des Lorrains, des Dieuzois, des gens de cette région du Sel, entre Marsal, Château-Salin. Et donc les militaires sont vraiment ancrés dans leur territoire. Et je crois que, après j'étais à Verdun, vous voyez, donc vraiment dans la France qui avait souffert des différentes guerres. Donc oui, on est vraiment accrochés à nos territoires. Et vraiment amoureux de nos territoires. Et je pense qu'une nation moderne, a besoin d'une armée. On le voit bien, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, finalement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est bien la preuve qu'il est nécessaire de disposer d'une armée puissante pour éviter ça. Même si cette armée ne sert qu'à ça, eh ben c'est déjà pas mal d'éviter une invasion.
On va prendre une dernière question.
Oui. Vous avez évoqué que la décision, pour être prise, elle devait être éclairée par le renseignement qu'on allait chercher, par des conseillers, par de la préparation. Et on peut avoir parfois l'impression d'un besoin d'élargissement, d'enfermement. On est dans nos métiers, on est dans nos administrations. Voilà, et du coup, on développe des modes participatifs, on développe de la maîtrise d'usage. Et moi, j'ai été impressionné par un responsable associatif quand je l'ai rencontré, mais qui est devenu un ami et puis qui avait plein de vie. Un homme avec une capacité de rassemblement, que ce soit dans un projet, que ce soit pour aller faire un jogging, pour boire un pot, où on pouvait se retrouver avec le commissaire, un DG, un chef de corps, un instituteur syndicaliste. Et c'était extrêmement fort. Et en discutant avec lui, il me dit « Oui, mais moi, j'ai été commando, j'ai été entraîneur au CEC, et on m'a formé à rassembler parce que, eh bien, à la fin, on va essayer de rentrer tous ensemble. Et de toute façon, pour la mission, on a besoin de tous. » Et même celui qui peut sembler un peu faible, eh bien, il a des choses à nous apporter, c'est peut-être lui qui va nous sauver la vie. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une particularité de la formation militaire et qu'on peut l'apprendre, en prendre un peu? Comment on peut développer ça dans la sphère publique non militaire?
Alors oui, c'est une vraie spécificité. C'est-à-dire que quand on part, on espère ramener tout le monde. Et on souhaite ramener tout le monde et on fera tout pour ramener tout le monde. Et le plus petit gradé n'est pas forcément celui qui aura le rôle le moins important. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ce processus de mission globale. L'idée, de mon point de vue, c'est d'associer tout le monde et que tout le monde se sente concerné. Quand on est concerné, on n'est pas seulement... on est cerné. Et c'est-à-dire qu'en fait, on est engagé. La vraie force, c'est d'arriver à engager toute son équipe et que personne ne se sente mis un peu à l'écart ou non associé. D'où ce processus des missions globales qui, à l'époque, je trouvais ça débile. Mais j'étais jeune, j'avais 22 ou 23 ans. Avec le recul, je trouve ça, l'idée était géniale. C'est d'associer tout le monde à, non pas la prise de décision, mais à la construction d'un objectif, d'une mission. Et si on associe tout le monde, c'est génial. Et dans les collectivités, si vous associez tous les gens qui ont une responsabilité et qui peuvent vous apporter quelque chose à l'entreprise que vous avez lancée, et que Vous avez décidé, c'est génial. Et c'est vrai que comme chef de corps d'un régiment dans une petite ville de garnison, il est évident qu'on associait, dès qu'il y avait un événement un peu particulier, les autorités publiques, c'est-à-dire le maire, le sous-préfet en l'occurrence, mais également les gens des territoires, c'est-à-dire qu'on associait un maximum de gens. Pourquoi ? Pour qu'ils se sentent concernés par le régiment, ces militaires qui vivaient à leur porte, sans qu'ils sachent vraiment ce qu'on y faisait, parce qu'en plus on faisait du renseignement, donc on racontait pas trop ce qu'on faisait. Parfois il fallait aller faire ses courses dans la petite supérette locale pour savoir où étaient les gens, c'est les gens parlent toujours trop. Et en fait, finalement, l'hôtesse de caisse en savait parfois plus, parce qu'elle entendait parler. Donc si j'étais agent de renseignement russe à l'époque, ben, il fallait que je me mette dans ces supérettes pour écouter les hôtesses de caisse raconter ce que racontaient les épouses des soldats qui étaient partis en mission pour savoir où ils étaient. Cela dit, sur le ton de la plaisanterie, mais pour vous dire que tout le monde doit être associé, je pense, et vous avez raison. Quand on associe tout le monde, ben c'est génial. Alors il y a toujours des râleurs, parce qu'on est quand même en France, pays de Gaulois, et que si on râlait pas, on ne serait pas vraiment Gaulois. Mais en même temps, les râleurs ne sont pas forcément ceux qui iront le moins loin. Mais le fait de râler met en exergue peut-être une problématique, un souci, que la personne n'ose pas exprimer d'une autre manière ou n'arrive pas à exprimer d'une autre manière. Et le fait de râler, je ne dis pas qu'il faille râler tout le temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus cru. C'est comme celui qui crie au loup, au bout d'un moment, on ne le croit plus. Ben, c'est un peu pareil. Donc je pense qu'il faut associer tout le monde. Et je pense que l'expérience militaire dans ce domaine-là est quelque chose d'intéressant.
Mon général, merci beaucoup. On arrive au terme de notre voyage au cœur de la décision qui aura été pour certains élèves un voyage au bout de la nuit. Donc je les remercie d'avoir été si nombreux à venir. Pour prendre un peu de hauteur, j'aurais juste une dernière question avant de laisser Mathilde conclure. On voit que la guerre revient sur les territoires et on voit en Ukraine l'importance des collectivités locales dans le maintien d'une infrastructure. Et on peut penser même aux conservateurs de bibliothèques et de musées qui ont sorti des œuvres. On peut penser au maintien de l'eau, de l'électricité. Pour nous, futurs cadres de la fonction publique territoriale, quel serait votre dernier conseil pour intégrer cette notion justement de guerre sur le territoire qui pourrait potentiellement arriver ?
Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, il y a une chose incroyable. Poutine a réussi un truc en tous les cas. Son vrai succès, c'est d'avoir créé une vraie nation ukrainienne. L'Ukraine, c'était un pays, certes, mais vous avez une différence entre l'Est et l'Ouest. L'Est, c'est plutôt une population de religion orthodoxe et plutôt russe. L'Ouest, c'est plutôt lituano-polonais. Mais en tous les cas, il a réussi à créer ça. Et ce qui me sidère à chaque fois quand on voit les différents reportages, c'est de voir cette population, ces maires, ces différents responsables qui font en sorte que la vie continue, que l'électricité soit remise en route, qu'il y ait des associations qui ravitaillent en bois, en nourriture, les gens qui sont isolés et ces vieilles dames ou ces personnes âgées qui n'arrivent plus à se déplacer, qui ne veulent surtout pas quitter leur territoire, leur maison, leur appartement, même si celui-ci est en partie détruit. Et je crois que la résilience, pour ça, est assez importante et donc une préparation après avoir le pire. Alors évidemment, le pire n'est jamais sûr, mais le jour où le pire est là, eh bien, c'est mieux de l'avoir prévu, c'est mieux d'avoir anticipé. Et je pense qu'en tant que responsable d'un territoire, c'est se poser la question le jour où on a un peu le temps, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Et donc de chercher à anticiper, alors bien sûr en récupérant des informations, mais je crois que cette anticipation, cette prévision du pire, parce que le pire peut arriver, la preuve c'est que les Ukrainiens ne devaient même pas imaginer un jour voir des obus tomber sur Kiev, ou sur Lviv, ou sur Mariupol, même si Mariupol déjà en 2014 avait été une des villes qui était visée, mais en tous les cas, ou à Odessa, mais c'est de prévoir le pire. Alors, je vous rassure, les Russes n'arriveront pas jusqu'ici, ça c'est évident. Mais la guerre est bien sur le territoire européen quand même. Je dis pourquoi les Russes n'arriveront jamais ici, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Et que la France a la chance d'avoir une armée, digne de ce nom. Sans doute avec pas suffisamment de munitions, mais ça c'est une autre question. Mais elle fait partie d'une coalition, et dans cette coalition, on n'est pas seul. Donc oui, il y a de quoi se défendre face à un attaquant. Mais en tous les cas, au niveau d'un territoire, je pense que c'est bien de prévoir l'inenvisageable. Et l'inenvisageable aujourd'hui, pour le patron du risque que je suis dans l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est le changement climatique, avec des orages soudains, avec une inondation soudaine. C'est de prévoir ça. J'ai travaillé boulevard Saint-Germain pendant des années et on prévoyait toujours la crue centennale de la Seine. Bon, elle n'est jamais arrivée. Hein. 1910, effectivement, l'eau était assez haute dans les rues de Paris, d'après les images que l'on peut voir et d'après les marques sur les murs qui sont indiquées. Mais c'est de prévoir, effectivement, ce qui peut arriver de pire, un incendie qu'on n'avait pas prévu, une inondation qui n'est pas prévue, un orage soudain, un gel plus fort que d'habitude, une chaleur extrême. Souvenez-vous des maisons de retraite dans lesquelles on a vu quand même pas mal de personnes âgées qui étaient décédées parce qu'on n'avait pas du tout prévu effectivement les chaleurs extrêmes. Et ça, c'est le rôle des responsables de prévoir le pire. Et c'est votre rôle de demain.
Général, on vous remercie de cette intervention très riche qui a pu, je crois, éclairer, peut-être déconstruire certains stéréotypes qu'on peut se construire, notamment sur la confiance dans les équipes, un management de proximité que vous détaillez et une décision finalement collégiale. Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour la richesse de votre témoignage. Merci à vous.